Vous écoutez
RMC.
Alors, il nous reste quelques minutes. Et il faut que tu fasses le point sur les nouvelles règles en Angleterre cette saison. Parce que les Anglais, on en parlait hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais enfin, souvent, c'est les plus réticents aux changements. Et souvent, je suis d'accord avec eux. Mais là, il y a quand même des trucs qui changent, là.
Ouais, il y a des trucs qui changent, t'as raison. Les cinq remplacements, déjà, puisque c'était le dernier grand championnat à pas avoir cinq changements. Ouais. On sait que Klopp et Guardiola se sont beaucoup battus pour arriver à cinq changements. Les petits clubs étaient beaucoup moins chauds en disant que ça avantageait les gros clubs et les gros effectifs d'avoir les cinq changements. Mais ils ont eu gain de cause finalement. Donc, on verra comment le championnat, la ligue va s'adapter, comment ces entraîneurs-là vont s'adapter aux cinq changements. On a le retour du multi-ball, le fameux multi-ball, c'est-à-dire qu'il y a plein de ramasseurs de balles avec plein de ballons parce que les Anglais ont trouvé que la saison dernière, d'ailleurs, on avait parlé un petit peu avec Johan Crochet sur le fait que le temps de jeu effectif dans les matchs de première ligue aussi avait baissé la saison dernière. Donc pour une des solutions qu'ils ont trouvées pour qu'on joue plus, pour que le ballon soit plus en jeu, d'avoir
excuse-moi mais ça m'avait échappé, c'est-à-dire qu'ils avaient réduit le nombre de ramasseurs de balles, c'est quoi l'histoire?
Ça, il y avait moins de ramasseurs de balles à cause du Covid et donc ils n'étaient pas revenus après. Il y avait surtout que un ballon, donc en fait au lieu d'avoir des ballons partout tout autour du terrain, donc dès que ballon sort,
donc c'est il fallait jouer avec le même joueur comme un amateur quoi. Il fallait récupérer le bon ballon pour jouer.
Exactement. Donc ça, forcément, t'attendais quand le ballon était dans les tribunes, surtout quand c'était les supporters adverses, par exemple. En fait, t'attendais un petit peu de temps avant qu'ils reviennent. Ouais. Là, ce sera plus un souci. Donc à voir. Je suis pas persuadé que ça solutionne tout, mais bon, on verra bien. Peut-être effectivement que ça peut
après, accélérer un petit peu. Normalement, tu dois bien éduquer tes ramasseurs de balles à domicile pour faire le boulot quand il faut.
C'est
rendre vite quand t'as besoin de rendre vite et rendre pas vite quand t'as besoin de rendre pas vite.
Oui, avec le vis.
Bah oui.
Exactement. Et puis peut-être moi je trouve le changement qui pourrait être vraiment intéressant, c'est qu'ils vont rendre public les conversations entre l'arbitre et
on en avait parlé il y a quelques jours, mais c'était un état de projet. Donc là,
visiblement, c'est assez sûr. Ouais. En tout cas, c'est ce que les clubs souhaitent aussi, et ça pourrait être intéressant. Donc ce serait forcément après les rencontres, mais que ça éclaire un petit peu telle décision, pourquoi ils ont accordé ce penalty là, quelle a été la discussion entre les arbitres qui sont donc dans le VAR et l'arbitre principal. Tout ça peut être aussi assez intéressant. Et puis le genou au sol, pour combattre les actes racistes le Black Lives Matter sera pas fait à tous les matchs, mais sporadiquement à travers la saison aussi.
Un mot des promus, Bournemouth, Fulham, Nottingham Forest, tu les vois se maintenir ceux-là ou compliqué?
Alors, ce qui est intéressant, alors Bournemouth, c'est compliqué. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent à dépenser. Ils ont fait ça un petit peu. Ils ont un peu bricolé. Ça va être dur pour eux, sincèrement, pour se maintenir. Pour Fulham et Forest, en tout cas, c'est un petit peu différent. Eux ont reconnu le besoin d'investir beaucoup. C'est très intéressant ce qu'a fait Forest, par exemple, et Marinakis, leur propriétaire grec, où ils sont allés chercher des joueurs de Bundesliga, par exemple. Ils sont allés chercher un Nico Williams à Liverpool. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, près de 90 millions d'euros, je crois, jusqu'à présent, pour se renforcer. Niakate est arrivé aussi de Mayence. Donc c'est vrai qu'ils ont je pense qu'ils savaient très bien qu'il fallait investir, qu'il fallait soutenir Steve Cooper. C'était une saison miraculeuse la saison dernière. La promotion l'histoire est incroyable. Ils sont derniers du championnat quand ils renvoient leur entraîneur au mois de septembre. Steve Cooper arrive. Il a pas non plus un pedigree incroyable, un CV incroyable. Il les fait monter. Ils ont des très très bons jeunes comme Brennan Johnson par exemple, leur attaquant gallois qui a 20 ans, qui va découvrir la première ligue, qui est fantastique. Mais il fallait aussi renforcer l'effectif, aller chercher des joueurs, même quitte à prendre des risques. C'est pas grave. Tu peux redescendre, bien sûr. Tu peux être relégué en fin de saison.
Ils ont pris Mangala aussi de Stuttgart.
Ils ont pris Mangala, exactement. Aouni de l'Union de Berlin. Et puis Fulham a fait un petit peu pareil aussi. Pour Fulham, la clé, c'est Mitrovic. Il n'y a pas de secret, on en avait parlé en fin de saison dernière. Et puis voir ce que Marco Silva peut faire avec cet effectif-là. Mais ça peut être intéressant pour Forest et pour Fulham.
Mitrovic, c'est un peu notre Gaëtan Charbonnier à nous, quoi.
C'est un petit peu ça. Même s'il avait marqué sa première saison en Premier League, on l'oublie un peu, mais c'est vrai que la saison, donc entre les deux dernières saisons de Championship, il marque 3 buts. Alors qu'en Championship, il marque
en championnat.
C'est incroyable. 44 buts en 43 matchs la saison dernière. C'est du jamais vu. Donc, à voir ce que ça va donner en Premier League.
Et donc, pour finir, le dénouement du procès entre Madame Vardy et Madame Rooney. Alors, faut que tu nous racontes ce qui s'est passé.
Ça m'avait échappé, moi.
Bah, c'est un
ouais,
peu
on va, dingue, on va faire vite. C'est le Wagata Christie. C'est l'histoire des Wags incroyables. Donc, les anciennes copines Rooney, Colin Rooney et Rebecca Vardy. Colin Rooney, on a marre de voir toujours des histoires sur sa vie privée dans le Sun. Elle se dit, mais comment, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui doit forcément, quelqu'un qui est proche de moi, qui doit raconter des histoires au Sun parce que tout sort dans le Sun. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle met sa casquette de Sherlock Holmes et elle enquête. Elle enquête et elle arrive au final. Elle enlève sur Instagram le nombre de gens dans son compte privé qui peuvent voir ses stories ou ses posts, et au final il restait plus qu'une seule personne qui pouvait voir ce qu'elle mettait sur Instagram, et bah c'était Rebecca Vardy. Et comme par hasard, tout ce que Colin Rooney mettait sur Instagram sortait quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard dans le Sun, et il y avait que Rebecca Vardy qui était au courant de ces histoires là souvent des histoires fausses d'ailleurs, puisqu'elle était la seule au final à suivre Colin Rooney sur Instagram sans le savoir. Et donc Colin Rooney ensuite l'a annoncé au monde entier en disant... Elle l'a piégé et elle l'a annoncé au monde entier en disant, voilà, la seule personne au courant des histoires qui sortent dans le Sun, c'est Rebecca Vardy. Rebecca Vardy, donc, l'a poursuivie en diffamation. C'était peut-être pas la meilleure idée qu'elle ait eue. Ça leur a coûté très cher. Ça a été un procès d'une semaine qui a passionné l'Angleterre cet été. Il y avait des dizaines de journalistes au tribunal, dans la High Court de Londres. Et au final, Rebecca Vardy a perdu. Elle a perdu donc son procès en diffamation contre Colin Rooney. Alors forcément, hein, il y avait des preuves à charge contre elle. Par exemple, le téléphone de son attaché de presse avait fini au fond de la mer du Nord. On ne sait pas trop comment. Un ordinateur de Rebecca Vardy avait été détruit ou était tombé dans les toilettes. On ne sait pas pourquoi. Et donc elle avait quand même détruit pas mal de preuves. Ouais. Effectivement. Non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, ça va faire un documentaire puisque les sociétés de production s'arrachent les droits pour le documentaire. Elle continue de jurer que c'est pas elle, qu'elle avait rien fait, qu'elle avait jamais fait fuiter les histoires de la vie de Colin Rooney. Mais donc la juge l'a reconnue coupable d'avoir donc fait fuiter tout ça.
C'était, et les deux maris sont exprimés ou pas?
Un truc que j'ai pas compris, c'est que le portable dans la mer et l'ordinateur dans les toilettes, c'était peut-être l'inverse qu'il fallait faire.
Oui.
Mais bon,
ouais, ça aurait été peut-être plus intelligent.
Mais à un moment, quand la police a demandé à l'attaché de presse de Rebecca Vardy, on peut voir votre téléphone pour regarder ce que vous avez dit dans WhatsApp et ce genre de trucs-là. Elle a dit, ah ben non, désolé, j'ai fait une sortie en mer, dans la mer du Nord, et puis il est tombé au fond de l'eau. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont quand même découvert qu'il y avait pas mal de preuves, enfin, en tout cas, de conversations WhatsApp, d'emails entre Rebecca Vardy et son attaché de presse qui avait disparu. Et donc, c'est vrai que, au final, au niveau de l'enquête, Elle en sortait pas très.
Donc, une femme de footballeur en Angleterre, le détaché de presse, c'est fantastique, ça, quand même.
Ah, bah oui, surtout Rebecca Vardy, hein. Surtout Rebecca Vardy, donc.
Et puis, je conclue sur un truc, une info qu'on a aujourd'hui, là. Une petite étude en Angleterre. Tourelle et Arteta sont les deux entraîneurs qui avancent le plus souvent des excuses après les mauvais résultats.
C'est vrai.
Alors, attends que Rudy Garcia arrive en première ligue, hein. Il risque d'exploser le classement. Et celui qui. Et devinez quel est celui qui sortait le moins d'excuses après les défaites?
Pep.
Qui assumait et tout, qui disait non. Bielsa.
Ah, Bielsa.
Ah oui, Bielsa, c'est vrai. Bielsa, c'est vrai. Voilà. Il va nous manquer, Marcelo.
C'est précis, hein. 13% pour Bielsa, alors que les deux premiers, là, Tourelle et Arteta.
Toi qui es anti-stat,
j'étais à presque 60%.
Toi qui es anti-stat, tu nous sors ces stats-là. Là.
Non, parce que c'est nul, en fait. Donc c'est pour ça que c'est drôle.
13%.
Non, mais Tourelle avait fait très fort quand il avait quand même. Il avait quand même mis un gros tacle à ses jardiniers en disant que c'était à cause de la pelouse de Stamford Bridge qui, en soi parfaite, avait causé la défaite contre Arsenal 3-2 à l'époque. C'est vrai que celle-là, elle avait été pas mal quand même.
Ouais, magnifique. Merci Julien.
Merci,
on se retrouve très vite.
Les gars.